Il est 10h09 minutes. On va parler de déménagement ce matin avec Maître Marc-André Gagnon du Centre de justice de proximité. Évidemment, il y a certains aspects juridiques d'un déménagement. Bonjour Marc-André.
Bonjour Annick.
Marc-André, je suppose que certains de nos auditeurs vont faire appel à des déménageurs prochainement si ce n'est pas déjà fait. On sait que des accidents peuvent arriver à l'occasion du transport, mais c'est quoi la responsabilité d'un déménageur en cas de bris de meubles, par exemple?
Ben. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les déménageurs y agissent en vertu d'un contrat de transport. Selon le Code civil du Québec, la première obligation du transporteur, c'est de transporter le bien à destination, donc du point A au point B. En cas de bris, la loi prévoit que c'est le transporteur qui est tenu de réparer le préjudice qui va résulter du transport. Concrètement, ça signifie que c'est l'entreprise de déménagement qui pourrait devoir payer des dommages et intérêts pour réparer les meubles endommagés ou même pour les remplacer si les meubles deviennent inutilisables. Par contre, sachez que les déménageurs ne sont pas responsables dans trois situations précises qui sont précisées dans le Code civil du Québec. Premier cas, lorsque la perte va résulter d'un cas de force majeure. Au sens de la loi, on parle d'un événement qui est imprévisible et soudain. Sachez qu'un bris d'équipement, là, un bris mécanique ou encore le fait que la marchandise soit volée, ce n'est pas des cas de force majeure, sauf des circonstances très, très exceptionnelles. Deuxième cas où les déménageurs ne sont pas responsables, c'est lorsque la perte résulte du vice propre du bien. Donc, à ce moment-là, c'est le bien qui se détériore par lui-même, là, sans que ça soit en lien avec le transport. Je donne un exemple. Si on laisse les biens sous la pluie avant que les déménageurs viennent les chercher, ils se dégradent pendant le transport, ça ne sera pas de la responsabilité du déménageur. Et troisième cas prévu par la loi, lorsque la perte résulte de ce qu'on appelle une freinte normale. Terme juridique pour dire que c'est une perte de volume normal qui résulte du transport. Bon, ça peut sembler un petit peu difficile à comprendre. Je donne un exemple. Si vous transportez 100 kg de farine et au départ, il y a 100 kg de farine, à l'arrivée, il en reste 99,99 kg. Ben, ça pourrait être un exemple de freinte normale, une perte normale là, qui aurait été perdue pendant le transport. Donc, on le voit, c'est des exceptions qui sont plutôt rares. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'entreprise est généralement responsable pour les meubles qui sont endommagés ou perdus pendant le déménagement.
Si jamais, Marc-André, le contrat de l'entreprise de déménagement prévoit qu'elle n'est pas responsable pour les meubles endommagés, des fois on voit ça, est-ce que c'est une clause qui est valide?
Non, en fait, ce type de clause-là n'est généralement pas valide dans un contrat de transport. Tout d'abord, il y a la loi sur la protection du consommateur qui interdit les clauses où un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel. On ne peut pas enlever notre responsabilité pour nos propres actions en vertu de la loi sur la protection du consommateur. Il y a des protections aussi dans le Code civil du Québec qui interdit ce type de clause-là en cas de négligence grave du co-contractant, donc du déménageur. En plus, ça se peut que ce type de clause-là soit considéré comme étant abusive et inapplicable parce qu'elles sont tellement éloignées des obligations essentielles du contrat de transport que ça équivaut comme à dénaturer le contrat. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est généralement pas valide. Bien sûr, il y a des exceptions, mais si on vous oppose, on vous dit que vous avez signé une clause, c'est pas toujours applicable.
De quelle manière, en fait, on peut limiter les risques juridiques en cas de litige avec les déménageurs? Parce que, tu sais, dans le fond, quand on déménage, on veut que ça se passe bien, puis en général, on ne veut pas nécessairement revoir notre déménageur là, rapidement. Fait que quand on est obligé d'avoir des petits litiges, c'est pas plaisant.
Non, effectivement. Et ce qui est possible de faire pour au moins limiter le risque de conflit, c'est de peut-être faire une liste des biens qu'on va remettre aux déménageurs. Une personne prudente pourrait même prendre des photos de chacun des systèmes. Donc, advenant un bris lors du transport, il sera plus facile de prouver que le bien était en bon état au départ. Aussi, c'est possible de choisir un déménageur, un transporteur qui possède une assurance responsabilité. En cas de bris, ça peut faciliter les éventuelles réclamations. Même possible de vérifier si vous-même, votre assurance habitation, va couvrir les bris à l'occasion du déménagement. Si jamais il y a un conflit, sachez que s'il y a un bris qui survient, la loi prévoit qu'il faudra envoyer un premier avis écrit à l'entreprise dans les 60 jours suivant le déménagement. Et en bout de ligne, si vous voulez aller devant les tribunaux, aller plus loin, on ne vous le souhaite pas, mais vous avez 3 ans pour le faire.
3 ans pour le faire, il y a quand même du temps. Dans un tout autre ordre d'idées, lorsqu'on prend possession de notre nouveau logement ou notre nouvelle maison, des fois, il arrive que les anciens locataires ou propriétaires ont oublié des biens. Et là, je me demande comment procéder, parce qu'on voit régulièrement des gens qui disent qu'il y avait juste à les ramasser, puis ils vont les jeter directement, là.
Oui, ça peut être risqué. Donc, premièrement, quand on est locataire, on est nouveau locataire, puis qu'il y a des biens qui demeurent dans l'immeuble, c'est possible d'aviser le propriétaire de la situation. Première chose qu'on devrait faire. C'est le propriétaire qui, par la suite, devrait s'assurer de garder les meubles à l'extérieur du logement, puis de respecter les obligations prévues par le Code civil. Pour les nouveaux propriétaires, la loi prévoit qu'il faut tenter de retrouver le propriétaire et lui remettre le bien. Ça peut être tentant de simplement se départir des biens qui sont oubliés. Ça peut être risqué. Donc, aux yeux de la loi, le bien, il va seulement être considéré oublié après 90 jours. Une fois que ce délai-là il est écoulé.
3 mois.
Donc, c'est un premier 3 mois, effectivement, qu'on doit attendre pour agir légalement dans un premier temps. Une fois que ce délai-là est écoulé, si on veut s'en départir, on devrait donner un avis de 90 jours au propriétaire du bien pour qu'il puisse le récupérer. Donc, c'est seulement au bout de 180 jours au minimum qu'on pourrait se départir du bien en toute légalité, donc sans risque de se faire réclamer des dommages et intérêts parce qu'on s'est départi d'un bien qui n'était pas à nous.
Incroyable. Hey, j'aurais une autre question en lien avec le bail de logement. Quand un locataire quitte, là, est-ce qu'il a l'obligation de remettre le logement dans un certain état à la fin de son bail? Les propriétaires nous le disent assez régulièrement, ça.
Oui, bien, la loi oblige les locataires à remettre le logement au propriétaire dans l'état où ils l'ont reçu. Autrement, si l'état du logement s'est dégradé, un propriétaire pourrait tenter de réclamer des dommages et intérêts devant le tribunal administratif du logement. Attention! Les locataires ne sont pas responsables de l'usure normale du logement, de la vétusté du logement ou encore des cas de force majeure. Pour éviter des malentendus, c'est possible de prendre des photos de l'état du logement au début du bail. Ça peut être une protection que vous faites si vous emménagez prochainement. En l'absence de photos, la loi prévoit que le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état, mais s'il y a déjà quelque chose qui est brisé, que vous rentrez dans le logement, avec une photo, vous pourrez dire que ce n'est pas de votre responsabilité éventuellement. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'obligation de remettre le logement en état à la fin du bail signifie que le locataire va devoir enlever les constructions, les ouvrages, les plantations qu'il a faites sur le logement ou sur le terrain. Si jamais ce n'est pas possible de les enlever sans détériorer le logement, le propriétaire peut choisir de les conserver, de conserver les améliorations en payant la valeur au locataire, mais il pourrait aussi choisir de forcer le locataire à les enlever. Si la remise en état est absolument impossible, à ce moment-là, le locataire peut conserver les constructions, les ouvrages, les plantations sans en payer d'indemnité. Ce qui me fait dire, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que si vous faites des améliorations dans votre logement, demandez au préalable l'autorisation au propriétaire et entendez-vous initialement sur qu'est-ce qui va se passer avec les améliorations à la fin du bail, au moment où vous allez quitter.
Maintenant, j'aimerais conclure la chronique en te demandant si le fait de déménager avec ses enfants engendre des démarches supplémentaires pour les parents qui sont séparés.
Oui, effectivement, il peut y avoir des démarches supplémentaires, surtout quand on était marié. Donc, pour les parents d'enfants qui sont divorcés, s'ils veulent déménager avec leurs enfants, la loi sur le divorce prévoit qu'il est obligatoire d'envoyer un avis écrit à l'autre parent qui a aussi du temps parental, donc la garde partielle ou la garde partagée de l'enfant, par exemple. S'il s'agit d'un déménagement important qui risque d'avoir un impact sur la relation entre l'enfant et l'autre parent, la loi prévoit que l'avis doit être donné au moins 60 jours avant la date du déménagement. Ces avis-là doivent, entre autres, mentionner la date prévue du déménagement, mentionner la nouvelle adresse. Ça donne l'occasion à l'autre parent d'exercer ses droits. Par exemple, en cas de déménagement important, si l'autre parent est en désaccord avec le déménagement parce que ça touche à ses droits, il ne pourra plus voir son enfant aussi fréquemment, mais là, l'autre parent aurait 30 jours pour remplir un formulaire d'opposition au déménagement pour éviter que l'autre parent déménage avec l'enfant. Donc, il y a des modèles d'avis qui sont disponibles sur Internet. Et vous pouvez nous appeler au centre de justice de proximité si vous avez besoin d'informations à ce sujet-là.
Ça, c'est pas tout le monde qui sait ça. Je comprends donc que ces obligations ne sont que pour les personnes divorcées, mais qu'en est-il là, des parents qui étaient conjoints de fait?
Bien, pour les parents qui étaient conjoints de fait, il n'y a pas ces obligations-là spécifiques. Par contre, un déménagement qui n'était pas prévu, ça peut être un changement important qui permette de demander un changement de la garde. Donc, ça peut rouvrir un dossier de garde d'enfant éventuellement. Donc, si on devait résumer, là, qu'on soit marié, qu'on soit conjoint de fait, c'est toujours souhaitable de s'entendre avec l'autre parent au sujet d'un déménagement avant de le mettre devant le fait accompli.
Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus pour se retourner de bord quand l'autre personne n'est pas d'accord. OK, je comprends bien. Si nos auditeurs ont des questions, comment ils peuvent communiquer avec le Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean?
En nous téléphonant, 418-412-7722. Nos services sont entièrement gratuits, confidentiels. C'est de l'information juridique générale.
Bien, merci beaucoup, Marc-André. On se retrouve à l'automne. Je te souhaite un bel été. Puis, dans les prochaines chroniques, celle qui devrait être avec nous, ça va être Ariane. Son nom de famille?
Ariane Girard, qui est notre étudiante en droit pour l'été 2024.
Qui va nous accompagner cet été. Merci beaucoup. Il est 10h.